C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le studio Kalangou. Bonsoir, il est 18h, le point sur l'actualité nationale en français, c'est tout de suite. Voici le sommaire. 989 migrants, dont 179 Nigériens et 810 ressortissants d'autres pays d'Afrique sont arrivés à Agadez dans la nuit du 7 au 8 décembre 2016 dernier. Ils ont été tous expulsés par les autorités algériennes, le point de leur prise en charge dans ce journal. La Journée internationale des droits de l'homme, c'est demain, samedi 10 décembre 2016. En prélude à cette fête, l'Union européenne et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont signé ce matin à la délégation de l'Union européenne une convention de financement à hauteur de 197 millions de francs CFA. Ce financement permettra à la CNDH de bien mener ses activités. Et le don de sang, un processus par lequel un donneur volontaire se voit prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang. C'est de cela dont il sera question ce soir dans votre partie magazine. Bienvenue à tous et à toutes. 989 migrants, dont 179 Nigériens et 810 ressortissants d'autres pays d'Afrique sont arrivés à Agadez dans la nuit du 7 au 8 décembre 2016 dernier. Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions. Ces migrants ont été accueillis à leur arrivée par les autorités régionales d'Agadez. Le gouverneur d'Agadez, Sadou Soleke, nous fait le point de leur prise en charge et de leur acheminement vers leur lieu respectif d'origine. On l'écoute.
Le recensement, c'est ce que je viens de vous donner, a donné 179 Nigériens identifiés qui ont été déjà mis en route pour leur région. Ceux-là sont partis. Il reste actuellement sur le site quelques 810 Africains qui sont toujours à Agadez, mais pour lesquels nous avons été saisis premièrement par l'ambassadeur du Mali, qui se préoccupait du sort de ses concitoyens et qui a évoqué des accords qu'ils ont avec un transporteur. Et le transporteur s'est effectivement manifesté pour faire continuer leur chemin aux ressortissants maliens. Les Maliens sont au nombre de 263. Nous avons aussi eu plusieurs contacts avec l'ambassadeur de l'Algérie qui nous a finalement signifié la décision de leur pays de prendre en charge le transport de ces refoulés sur leur pays de destination. Nous sommes donc dans l'attente de la mise en œuvre de cette décision des autorités algériennes.
Propos recueillis par notre correspondant à Agadez, Moussa Maman. La Journée internationale des droits de l'homme, c'est demain, samedi 10 décembre 2016. En prélude à cette fête, l'Union européenne et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont signé ce matin à la délégation de l'Union européenne une convention de financement à hauteur de 197 millions de francs CFA. Ce financement va permettre à la CNDH de bien mener ses activités. Raoul Mateus Paulo, ambassadeur Union européenne, analyse les défis qui restent à relever dans ce domaine.
Alors, les droits humains au Niger, vous savez qu'il y a eu la revue périodique universelle. Il y a eu des recommandations qui ont été faites au Niger. Moi, je suis heureux de la dynamique positive qui est installée. Il y a des nouvelles recommandations. Il y a des défis. Il y a des efforts. Il y a des succès. Mais il y a beaucoup de défis. Une des problématiques que je vois ici au Niger, c'est la scolarité des jeunes filles. C'est la lutte contre les mariages précoces, c'est lié à l'éducation d'ailleurs. Il y a des changements à opérer, et puis par rapport au reste, renforcer, consolider, comme dans tous les pays démocratiques, consolider les libertés, la liberté de presse qui est une réalité au Niger.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Khalidi Kri, affirme que la situation des droits humains au Niger se justifie par plusieurs motifs.
Des efforts sont faits par notre pays, mais vous savez, les droits humains, c'est extrêmement large. Et pour un pays qui a des moyens limités, un pays à qui une guerre a été imposée et qui est obligé de faire avec, ce n'est pas toujours facile de pouvoir déployer toute sa force dans tous les aspects des droits humains. L'éducation, la santé, l'environnement, les conditions de détention, au niveau des prisons. Donc, il y a énormément de choses.
Propos recueillis par notre reporter Habibou Garba. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée mondiale de la laïcité. Selon le juriste Maïna Karté, la laïcité est la séparation entre l'État et la religion. Elle représente un principe fondamental de la République du Niger. Maïna Karté affirme que dans les faits, le concept de la laïcité est purement théorique.
Le Niger, à l'instar d'autres pays africains et du monde entier, est un État laïque, les institutions de l'État à part, les institutions de la religion à part. C'est-à-dire que ce n'est pas une république islamique. Ça, c'est en théorie. Mais comme vous le dites, nous sommes un État majoritairement musulman. Par conséquent, dans la pratique, on ne sent pas la séparation entre l'État et la religion. D'ailleurs, malgré ce que la laïcité a été proclamée, la religion a une emprise réelle dans les institutions politiques et administratives. D'ailleurs, il y a un véritable amalgame dans la Constitution. Quand on l'oblige, quand on demande à certains responsables de notre institution de prêter serment sur le livre saint, à commencer par le chef de l'État, il fait un serment coranique, enfin un serment sur le livre saint de sa confession. Donc déjà, ici, il y a une contradiction entre l'article 3 qui proclame la laïcité et les différents serments.
Vous venez d'entendre le juriste Maïna Karté, mais pour le pasteur Sabo Bassiri, secrétaire général de l'Alliance des missions d'église évangélique du Niger, la laïcité doit permettre l'expression de la liberté des différentes foies religieuses. Écoutons-le.
Nous sommes dans un monde pluraliste où il y a des communautés d'opinion qui ne peuvent pas être muselées. Chacun doit exprimer sa foi dans la liberté. Donc, au Niger, nous vivons dans un État, avant on disait laïque, mais aujourd'hui le terme consacré, c'est la séparation de l'État et de la religion. Il y avait la laïcité en France qui a fait un long chemin. Et pour les gens, quand on dit que le Niger est un pays laïque, c'est comme ils pensent que le Niger est un pays païen. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, au fil, en tout cas, des révisions constitutionnelles, on est arrivé à l'expression que la religion est séparée, l'État est séparé de la religion.
Le pasteur Sabo Bassiri, compte tenu de la dominance de la religion musulmane au Niger avec 99% de musulmans, le Niger ne peut pas être un État laïque. C'est en tout cas ce que déclare Oustaz Omar Daouda Bizo, imam de la mosquée At-Taqwa située au quartier Dar es-Salaam.
Il n'est pas possible pour le peuple nigérien véritablement de séparer la religion du sphère publique. Mais pour l'État, elle l'a fait. Et comme sa religion était la tolérance par excellence, elle l'accepte jusqu'à un certain niveau. Il est écrit dans la Constitution, le peuple nigérien ou l'État nigérien est laïque. Mais la réalité en est tout autre. Et il n'est pas dit parce qu'on dit par exemple l'État nigérien est musulman. Non, c'est reconnaître une réalité. Le peuple nigérien, il est musulman. Il respectera toutes les autres majorités. Et comme il est en train de le faire. L'État ne doit pas encourager. C'est-à-dire, si maintenant la population décide elle-même d'enseigner l'islam, ça veut dire que s'il y a des non-musulmans, on va leur enseigner leur religion. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire de ne pas favoriser une religion par rapport à l'autre, de laisser chaque religion évoluer de façon naturelle.
Aujourd'hui, 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Le thème retenu pour cette année est « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Le classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2015 de Transparency International place le Niger au rang de 99e pays à l'échelle internationale. Idi Abdou, administrateur de la ligne, analyse le phénomène de la corruption du Niger. Il est au micro de Soumana Amadou.
Pratiquement, on tolère la corruption. Les citoyens s'adonnent à la corruption. Et certains échafaudent même des théories pour chercher à justifier. Normalement, c'est parti sur un certain nombre de secteurs. La justice, les finances, les transports. Je parle des transports, les policiers que vous voyez là, sur la route au rond-point. La santé, l'éducation. Finalement, maintenant, il n'y a pas un service public où ne règne pas la corruption. Les partis politiques se sont retrouvés en tête de liste des structures corrompues. Les organes de contrôle classiques plus les structures créées pour lutter contre la corruption ont fait des efforts. Mais ces efforts on a l'impression qu'ils sont annihilés par l'impunité ambiante qui règne. En attaquant l'impunité, c'est que le progrès sera significatif. Mais tant que l'impunité règne, elle va toujours saper les efforts.
Idi Abdou, administrateur de la ligne verte. Le système d'information sur les marchés agricoles CIMA annonce une évolution mitigée des prix des céréales, des fruits et des légumes pour la période qui va durer du 23 au 29 novembre 2016. Le point avec Adama Dawaki.
Les produits agricoles, notamment les céréales sèches, ont enregistré une évolution mitigée des prix sur les différents marchés du pays. Ainsi, selon le CIMA, le mil a connu une augmentation légère de 2% par rapport à la semaine précédente. Cette hausse a été provoquée par la forte demande du produit sur les marchés suite à la reconstitution des différents stocks. Ménages, commerçants et institutionnels. Le prix le plus bas du sac en 2000 était de 14 500 francs CFA enregistré à Aholé, Tibiri, région de Dosso, et le plus élevé est à 24 000 francs CFA notifié à Adarbisnat, Agadez. De leur côté, le sorgho et le maïs ont enregistré toujours durant cette période respectivement une diminution de 5% et 3% et les poivrons frais de 11%. La banane a connu une légère baisse de 3% du fait de l'amélioration de l'offre du produit sur certains marchés suivis Tawa et Zander. Enfin, le CIMA annonce que les prix moyens de la plupart des fruits et légumes vont baisser du fait de l'installation généralisée de la période de contre-saison.
Sport à présent, le vice-champion taekwondo des Jeux Olympiques de Rio 2016, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga, participe à une compétition dénommée Grand Prix Top 2016 à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce tournoi regroupe les 16 meilleurs taekwondoïnes du Niger. Le jeune Alfaga affrontera demain à 8h de Niamey le Brésilien Mekon Siqueira, l'homme qui il a battu 6 contre 1 à Rio au Brésil le 20 août dernier. À présent, la partie magazine de ce journal, le don de sang, un processus par lequel un donneur volontaire se voit prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang. Comment se passe le don de sang? Qui peut donner du sang? Autant de questions posées par notre reporter Soumana Amadou à Soumana Adiza, chargée de la sélection médicale au Centre régional de transfusion sanguine de Niamey.
Celui qui a l'intention de venir donner le sang dans la journée, il se présente ici au Centre régional de transfusion sanguine. On lui remet les papiers, il fait la sélection et ensuite, s'il est apte à donner, il va au prélèvement et ainsi de suite, ensuite la collation.
Qui est apte à donner le sang?
Apte à donner, c'est celui qui est en bonne santé, qui a au minimum 50 kilos et 18 ans d'âge. Et ne pas être agent, ça c'est les critères du don de sang. Manger légèrement avant de venir, ne pas manger des substances grasses.
Comment vous gérez le sang?
Le sang, quand on le reçoit, on fait des examens du laboratoire, on fait le groupage sanguin rhésus. Toutes les poches négatives qui vont être dispatchées dans les services sanitaires qui font la demande.
Que faites-vous avec le sang contaminé?
Ces poches de sang, on les détruit, on les brûle. À chaque donneur qui vient donner le jour, on lui demande de revenir une semaine après pour chercher ses résultats. Et ce, jusqu'à 2 mois. Donc, s'il revient chercher ses résultats, on lui dit ce qu'on a vu. Le marqueur qui est dans le sang, on lui dit au labo, à la distribution et partout, on a des banques de sang. Mais on n'en a même pas suffisamment pour stocker. Les poches de sang, on les prend aujourd'hui, demain, on sert tout. Parce que les poches qu'on prend aujourd'hui, c'est demain qu'on va les tester. Et le lendemain, tout est servi.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Les difficultés que nous rencontrons, c'est le manque de donneurs volontaires de sang. Les donneurs volontaires, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. À chaque fois, c'est les donneurs de famille qu'on a. Et celui qui vient donner à son parent, il s'attend à ce qu'on lui restitue la totalité des poches qu'ils ont données. C'est ça les principales difficultés que nous rencontrons.
Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population?
L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la population de Niamey et de ses environs, c'est de venir donner son sang. Vraiment, il n'y a que le sang humain qui peut sauver une vie humaine. Et il n'y a pas de substitution pour la transfusion. Il n'y en a pas. On ne peut pas dire qu'on a pris tel médicament pour avoir du sang. Non, il faut nécessairement qu'il y ait un donneur pour qu'il y ait une transfusion. Si on a suffisamment de donneurs, on ne demanderait pas de donneurs de famille. Voilà. Et à chaque fois qu'un besoin de transfusion se fait sentir, on va transfuser. Au lieu d'attendre le lendemain ou le surlendemain pour certaines personnes, voyez-vous ce que ça peut faire? un malade qui a besoin d'être transfusé, qu'il attend que ses parents viennent donner, qu'on fasse des tests et qu'il soit transfusé le lendemain ou le surlendemain. Vraiment, c'est pas très confortable, c'est pas agréable. Les patients qui demandent plus le sang, c'est d'abord la pédiatrie, la maternité et ensuite les hémodialysés, les drépanocytaires.
Fin de ce journal, retrouvez tout de suite le forum des studios Kalangou présenté par Mokhtar Amadou.